7h26, 6 décembre 1989. 30 ans plus tard, évidemment, aujourd'hui, on va voir toutes ces cérémonies. Il y a eu des hommages très touchants hier à l'Assemblée nationale. Et on va prendre le temps d'en parler ce matin avec Nathalie Provost, survivante qui avait été blessée dans ce drame de Polytechnique. Cet attentat contre les femmes, on peut maintenant le dire de façon officielle. Ça a pris toutes ces années-là pour le, disons, l'inscrire de façon formelle. Nathalie Provost, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin?
Les 6 décembre se suivent et ne se ressemblent pas. Je suis très, très émue par la profondeur et la largeur de vision qu'on est en train d'atteindre pour parler des événements de Polytechnique. J'ai un sentiment, c'est comme si on arrivait à l'âge adulte à travers ce deuil-là, ensemble, à ce propos-là. Je ne veux pas dire qu'on est toujours des enfants, là, mais on a réagi. Ça a été difficile pour notre société, ça a été difficile pour la communauté montréalaise, pour la communauté des ingénieurs. Et je suis bien, bien, bien émue. Puis je suis émue aussi parce que c'est mes enfants qui sont en train de prendre le relais d'une certaine façon. Et de la mémoire, de l'engagement, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça m'apaise aussi.
Vous avez dit, ces gains, ces petites et ces grandes victoires au fil des années, on retient aussi que ça demeure fragile.
Oui.
On a l'impression que la bataille est très bien engagée, bien avancée, et puis, oups, il y a un dérapage. On a vu sur l'avortement durant la campagne électorale. Vous voyez que ça comme des avancées, mais en même temps, la fragilité.
Je suis très sensible à la fragilité, tout ça. Jamais j'ai cru, moi, qu'un jour je serais engagée en contrôle des armes à feu. J'avais cru en 95 que le registre des armes d'épaule et toute la loi allaient protéger les Canadiens, mais non. Il faut encore se battre. On le sait, l'égalité entre les sexes, on est une société avancée, mais on sait aussi que ça bascule très vite. On n'a qu'à revoir les pays du Moyen-Orient pour savoir qu'il y a eu des sociétés là-dedans où les femmes avaient beaucoup, beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté, des carrières à elles. Et puis aujourd'hui, c'est des pays dévastés. Et les premières qui souffrent, c'est les femmes avec les enfants. Les premières qui perdent leur autonomie, leur capacité de faire ce qu'elles veulent. Fait que je pense qu'il faut continuer de s'engager, il faut se réjouir quand on a des avancées. Je me réjouis du rôle que nos enfants et les plus jeunes jouent aujourd'hui et la façon dont ils vivent ensemble. Mais oui, je demeure toujours sensible au fait que tout peut craquer. Et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant.
Je recevais cette semaine Jean-Marc Dalphon qui prépare du théâtre documentaire sur Polytechnique. Dans 2 ans, ce sera disponible pour le public, mais une des motivations qu'il a eues, c'est entre autres de voir encore aujourd'hui le niveau de haine, de messages adressés à des femmes publiques, des élus. On a vu la députée de Québec solidaire l'autre jour, on a vu Valérie Plante qui donne un paquet d'exemples.
Moi.
Vous-même, parce que vous prenez quand vous étiez très, très impliqué dans le contrôle des armes à feu, de voir ces messages-là, là, vous l'avez vécu, Polytechnique, puis de dire 20 ans après, 25 ans après, 30 ans après, il y a des gens qui tiennent ces propos d'une haine incroyable. Comment vous réagissez à ça?
Bien, je suis peut-être peureuse. Moi, j'essaie de les ignorer le plus possible. J'ai beaucoup de difficultés à continuer d'agir quand je me laisse atteindre par ça. Et c'est très dur, c'est très dévastateur. C'est assez incroyable la dureté des propos, puis qu'on oublie que notre capacité de vivre ensemble, puis d'avoir une société prospère, puis d'avoir une société paisible, ça s'appuie aussi sur la capacité d'avoir des rapports paisibles entre nous, des rapports où on est capable d'échanger, de discuter, de dialoguer, même quand on n'est pas d'accord, de manière respectueuse. Et malheureusement, il y a des grands bénéfices aux réseaux sociaux, mais il y a aussi une impression que tout peut se dire n'importe comment à n'importe qui. Puis comme si on était trop fragile, si on n'était pas capable d'accepter des bêtises. Or, des bêtises, c'est des attaques souvent personnelles. Puis envers les femmes, c'est des attaques. Moi, cet été, j'ai reçu un message qui me disait « J'encule ta mère ». Moi, je m'excuse, mais je peux pas imaginer que quelqu'un a eu une pensée aussi terrible. Moi, je suis dans mon auto tranquille, je m'en vais voir des amis, puis je reçois ça. on est affecté. Moi, j'ai été affectée par ça. C'est un exemple. Il y en a qui en reçoivent tout le temps, constamment, mais ça donne quoi? Ça donne rien. Ça arrête des élans. Ça arrête l'envie d'avancer. Et si tout le monde qui a envie d'avancer arrête, on n'ira nulle part. Puis le monde est dur, la vie est dure. Si on ne se donne pas un peu de douceur entre nous ou à la limite du respect, on ne fera plus rien. Puis c'est pas en faisant plus rien qu'on va lutter contre les changements climatiques, qu'on va avoir une bonne économie, qu'on va arrêter la difficulté dans le monde. Au contraire, il faut être capable d'avancer. Et le respect, c'est la moindre des choses. J'ai l'impression de faire des...
Non, mais c'est vrai, je peux vous dire. Notre invitée ce matin, Nathalie Provost, donc, est survivante de Polytechnique. Depuis le début de la semaine, je reçois plein de courriels de gens qui se souviennent précisément où ils étaient le 6 décembre, des gens qui étaient soit à Polytechnique, à l'Université de Montréal ou carrément ailleurs, et qui ont un souvenir de la soirée, le lendemain, des gens qui retournaient à l'université le lendemain. Puis il y a un commentaire, c'est une femme qui m'a dit, j'étais en route vers Polytechnique ce soir-là, et je suis arrivé, les policiers, les ambulances étaient là, et cette image-là, elle est gravée en moi. J'ai pas été blessé, mais je suis pas capable de m'enlever cette image-là. Mmh. Est-ce que vous avez encore, vous, 30 ans plus tard, des images que vous dites, je les ai, je suis pas capable de vraiment les mettre de côté?
D'une certaine façon, je pense que... Moi, c'est pas des images, c'est des bruits. Hein.
Des bruits.
Le dernier élément, moi, déclencheur qui me ramène là, c'est le bruit. Mes enfants le savaient, quand une casserole tombait par terre, je devenais d'une humeur massacrante. Ça mérite profondément et beaucoup. Et donc, pour moi, c'est vraiment le son. La balle sur les murs, c'était des murs de béton, a fait une espèce de caisse de résonance incroyable. Et moi, une porte qui claque, un feu d'artifice, un ballon, une casserole par terre sur un plancher de céramique, moi, ça peut arrêter mon cœur de battre pendant une fraction de seconde et mon adrénaline monter dans le plafond pour rien. Là, il se passe rien, mais j'ai peur.
Si je vous ramène un peu dans les débats qui ont suivi, puis j'essaie de voir aujourd'hui où on en est dans ces questions-là. On a beaucoup parlé des propos que vous aviez tenus en disant « je ne suis pas une féministe », mais moi, je l'ai vu, puis vous me direz ce que vous en pensez, en disant « je ne suis pas une militante, moi, je suis une femme, je viens à Polytechnique, c'est un monde de gars, mais pour moi, c'est normal, puis je vais être ingénieur, puis c'est ce que je veux faire dans la vie, puis je n'ai pas besoin d'avoir l'étiquette comme telle pour le dire. »
C'est tout à fait ça, puis moi, je suis une militante étudiante. Et quand quelqu'un se disait engagé dans le mouvement étudiant, mais qu'on ne le voyait jamais quand il y avait des affaires plates à faire, j'aimais pas ça l'entendre se porter l'étiquette de militant étudiant. J'aurais pas porté, moi, une étiquette que je voulais pas... J'aurais pas voulu faire ça aux féministes. Moi, je savais que j'avais pas mené de combat. Je savais que j'avais pas été engagée de manière formelle, d'aucune façon. Moi, les portes étaient ouvertes et j'étais entrée par la porte grande ouverte. Polytechnique, c'est une discipline, c'est des disciplines scientifiques qu'on étudie. J'ai jamais eu l'impression que j'étais plus ou moins bien évaluée. J'avais ou j'avais pas bon mon problème de maths ou de physique ou de thermodynamique. Ça avait aucun rapport, mon sexe, dans mon évaluation. Est-ce que je me présentais bien? Est-ce que j'étais jolie? Ça n'avait aucune différence. C'est une discipline évaluée parce que ça marche ou ça marche pas, ta solution. C'est pas « je pense que c'est bon, j'aime ton argument ». C'est pas ça, c'est oui ou non. Et dans ce contexte-là, j'ai toujours eu l'impression que mes chances étaient égales à celles des hommes. Même si c'est vrai qu'il y avait probablement de la misogynie puis du machisme, je peux pas le nier, mais moi, je l'ai pas vu, je m'en suis pas occupée, j'avançais.
Il y a encore des étudiants de l'époque qui m'ont écrit cette semaine en disant que ça leur aurait pris des années, mais beaucoup d'années, à faire disparaître la culpabilité. J'étais dans la classe.
J'ai rien fait. Quand
on a séparé les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, j'aurais pu peut-être faire quelque chose. Il y en a pour qui la culpabilité a été un poids tragique. Mm-hmm. Vous leur dites quoi à ces gars-là?
Il y en a juste un coupable, puis il est mort. J'ai dit ça 2 jours après, sur le lit d'hôpital. Je le pense encore aujourd'hui. Qui pouvait imaginer que c'est ça qui se passait? Dans le documentaire qui a été diffusé cette semaine, Stéphane Chaillé dit « Ah, moi, je savais que c'était dangereux puis que c'était réel. J'ai pris mes jambes à mon cou, mais on savait pas qui était menacé. Moi, j'ai pensé que les femmes étaient isolées parce qu'on allait être protégées. C'est fou de même. Hein? Les femmes et les enfants d'abord. Ben, j'ai pensé que c'était ça. » Fait qu'on sait pas. Et quand on sait pas ce qui se passe, quand on sait pas comment on se défend, est-ce que c'était peureux de s'en aller dans un peut-être guet-apens dans le corridor quand t'étais un gars? Est-ce que de menacer quelqu'un puis qu'il se mette à tirer n'importe comment, c'était la bonne décision? On le savait pas. Les policiers savaient pas comment intervenir. J'ai entendu Jacques Duchesneau dire on a modifié nos approches dans des cas comme ça parce qu'on a appris. Ben, imaginez, nous, des étudiants. Puis en 1989, on ne peut pas imaginer que quelqu'un rentre avec une armée dans une école pour tuer des femmes. C'est inimaginable. Vous le savez, vous étiez adulte déjà, comme moi. Il n'y a rien qui nous préparait à ça. Quand il n'y a rien qui te prépare, tu ne sais pas la bonne réaction. Aujourd'hui, c'est facile de dire « Mon Dieu, il aurait dû sauter dessus. Mon Dieu, il aurait dû l'arrêter. » Mais sur le champ, on ne sait pas. C'est le lendemain qu'on a su. C'est toujours plus facile de dire qu'est-ce qu'on aurait dû faire en regardant dans le rétroviseur.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
Ah, je vais aller au lancement du livre de José Boileau. Je suis très heureuse qu'il y ait quelque chose d'écrit puis qui nous permet de faire une espèce de synthèse de tout ça puis qui, en même temps, honore la mémoire de mes consoeurs. Je pense qu'on est à mur pour ça. Ça me fait faire le lien avec votre première question. Je suis contente et c'était important pour moi d'y être. Puis cet après-midi, je vais aller évidemment à la commémoration au chalet du Mont-Royal. C'est un magnifique symbole qui a été créé en 2014. Et ce moment de recueillement-là, qui est beau, hein, qui est très, très beau, puis des flambeaux, pas des flambeaux, des faisceaux qui vont vers le ciel, c'est un peu comme si nos âmes s'élevaient pour un peu les rejoindre. Fait que moi, ça me touche beaucoup.
Vraiment, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça me fait plaisir.
Très apprécié. Nathalie Provost, 7h38.